don't lose track
of your very soul, holding on the joy, don't lose track of your very soul, keep holding on the joy.
Il est 4h en temps universel et à Conakry. Merci d'écouter RFI. 6h à Paris, l'heure de votre journal Gaëtan Plené. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et cette question à la une, les Américains seraient-ils en train de se tirer une balle dans le pied?
C'est ce que croit le chercheur que vous entendrez dans un instant. Pour lui, les nouvelles sanctions américaines dévoilées hier contre les partenaires commerciaux de l'Iran vont surtout pénaliser l'économie américaine. Les économies françaises et saoudiennes, elles se rapprochent encore un petit peu plus. De nombreux accords et contrats ont été dévoilés hier en marge de la visite à Paris du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. On y revient dans ce journal. On revient aussi sur l'effondrement d'une décharge à Conakry. Les habitants sont encore sous le choc. 31 personnes ont péri. On va vous parler de cette tornade qui a traversé une commune de l'Aude hier en fin de journée dans le sud de la France. Les images sont impressionnantes. La France ou le maire, la France insoumise de Saint-Denis est désormais visée par une enquête pour détournement de fonds publics. Et puis un sommet sur l'alimentation scolaire aujourd'hui au Honduras où c'est une vraie problématique. Panique en Iran, car le gouvernement était prêt, affirme le ministre de l'économie, prêt à faire face aux nouvelles sanctions américaines. Et Téhéran a un plan sur 2 ans pour gérer ces événements, dit le ministre, qui promet, je cite, une nouvelle défaite aux États-Unis. Hier, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a dévoilé un nouveau train de sanctions dites secondaires sur l'or, la technologie ou encore l'aviation. Mais ce n'est pas directement l'Iran qui est visé, même si l'objectif à terme, c'est d'affaiblir son économie. Là, l'idée, c'est pour Washington plutôt de s'en prendre aux partenaires commerciaux de la République islamique et de les forcer à arrêter leurs échanges sous peine de se retrouver aussi isolés que Téhéran. Les États qui n'empêcheront pas le blanchiment d'argent au nom de l'Iran seront expulsés du système dollar, a notamment prévenu Scott Bessent, sans préciser quand les sanctions entreront en vigueur, ni quel pays pourrait être visé. La Chine, peut-être, sûrement, qui continue d'acheter du pétrole à l'Iran. Toujours est-il qu'avec cette méthode, c'est surtout l'économie américaine qui pourrait souffrir, nous dit Romuald Sciorra. Il est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS.
On peut se demander si les annonces de Trump iront jusqu'au bout et si elles porteront leurs fruits. Trump nous habitue à des annonces tonitruantes. Aujourd'hui, il menace carrément la Chine et l'Inde. Peut-il véritablement imposer des sanctions à ces pays? Oui, techniquement, il le peut. Mais les représailles économiques à l'encontre des États-Unis seront énormes. Est-ce que les nouvelles sanctions américaines pourraient avoir véritablement un impact sur l'Iran, qui est habitué à subir ce genre de sanctions depuis déjà de nombreuses années? Moyennement, dans tous les cas de figure, si ces sanctions pouvaient s'avérer fructueuses pour les Américains, on aurait peut-être dû commencer par ça. Bref, Trump a fait des annonces essentiellement pour complaire à l'opinion publique américaine à quelques semaines des élections de mi-mandat. Il est à douter qu'il ira jusqu'au bout. Il n'a aucune envie de se mettre à dos la Chine et de provoquer une nouvelle crise qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie aux États-Unis.
Le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, à l'IRIS, Romuald Sciorra. Les sanctions et la pression américaine ne résoudront pas le conflit régional, a de son côté réagi la Chine avant même les annonces de Scott Bessent. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, prévient, lui, pression économique ne veut pas dire fin des frappes. Elles reprendront, dit-il, si Washington les juge nécessaires. À noter qu'une agence maritime britannique annonce qu'un pétrolier a été touché cette nuit par un projectile inconnu au large d'Oman. L'équipage va bien, mais le bateau est hors d'usage. Des bateaux régulièrement pris pour cible depuis le début de la guerre dans le détroit d'Ormuz, en partie bloqué par l'Iran qui réclame son contrôle. Et il faut d'ailleurs rétablir là-bas, à Ormuz, la navigation sans péage. Voilà ce que disent la France et l'Arabie Saoudite dans une déclaration conjointe publiée hier à Paris. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman était en visite. Alors au-delà de la situation régionale, c'était aussi l'occasion de signer de nombreux contrats et notamment un protocole d'accord pour créer 3 parcs d'attractions près de Paris. Ce sera financé par Riyad, Oriane Verdier.
L'Arabie Saoudite va investir 6 milliards d'euros pour la construction de 3 parcs d'attractions à Cergy-Pontoise. L'un d'eux pourrait être consacré à Dragon Ball. Le projet est né d'une discussion entre les dirigeants français et saoudiens en 2024, confie une conseillère d'Emmanuel Macron. Il se serait découvert une passion commune pour les mangas et en particulier donc Dragon Ball Z. Mais si l'Élysée raconte le projet de deux visionnaires au loisir commun, d'autres dénoncent une nouvelle provocation. Voilà plusieurs années, notamment, que l'ONG Amnesty International accuse Emmanuel Macron de se faire l'architecte principal de la réhabilitation de Mohamed Ben Salman. Ce dernier est notamment accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi. Les autorités saoudiennes maintiennent une répression sévère de la liberté d'expression avec un usage massif de la peine de mort. Ce lundi, Paris et Riyad ont également affiché leur entente sur le dossier iranien, appelant à une solution négociée. Ils ont appelé à la fin de la politique de colonisation israélienne et doivent co-organiser une conférence pour soutenir les forces armées libanaises.
Et parmi les accords signés hier, l'un vise à renforcer le partenariat de défense entre Paris et Riyad. L'Ukraine et le Royaume-Uni, de leur côté, ont signé un accord sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les forces armées ukrainiennes. C'était hier à Kiev, en marge de la visite du Premier ministre britannique Andy Burnham, qui co-présidait une réunion des alliés de l'Ukraine, la coalition dite des volontaires. Londres a aussi promis à Kiev un accès à des informations classifiées sur les composants du missile de croisière franco-britannique SCALM, utilisé pour frapper la Russie afin que les Ukrainiens puissent les produire directement chez eux. En République démocratique du Congo, une mission du mécanisme chargée de vérifier le cessez-le-feu entre Kinshasa et la FCM-23 s'est déployée hier à Minembwe, dans le sud Kivu. C'était une première avec l'appui logistique de la MONUSCO, bien que les combats continuent entre les deux camps. L'émotion est toujours très vive en Guinée, deux jours après l'effondrement de la grande décharge de Conakry. 31 corps sans vie retrouvés, 22 autres personnes blessées. Et puis il y a aussi des centaines de sinistrés et d'autres habitants des environs dans des zones à risque d'effondrement qui ont dû être évacués. Car l'urgence désormais, eh bien, c'est de sécuriser les environs de la décharge en attendant sa fermeture. Elle est prévue pour ces prochaines années. Tanguy Billon.
Après l'effondrement de la décharge de Dar es Salaam, des dizaines de rescapés se sont réfugiés chez des membres de leur famille ou chez des connaissances. Mais plus de 300 personnes, des sinistrés ou des personnes habitant dans des zones considérées comme à fort risque, ont dû être évacuées par les autorités. Elles ont trouvé refuge dans une école primaire de la commune de Dixine, à quelques kilomètres. Hier encore, sous la forte pluie, des pelleteuses poursuivaient les recherches. La pluie a contribué à déstabiliser cette montagne d'ordures, mais cela fait déjà des années que le gouvernement prévoit de fermer la décharge. Non seulement elle s'effondre régulièrement. En 2017, par exemple, 9 personnes avaient déjà perdu la vie dans les mêmes circonstances, mais elle est extrêmement polluante. Puisqu'il n'y a aucun autre moyen de détruire les déchets, des feux y sont régulièrement allumés et la fumée toxique empoisonne l'air dans tous les environs. En 2022, la Guinée lançait le projet de construction d'une nouvelle décharge dans la commune de Koya à la sortie de Conakry. Les travaux sont en cours. Son ouverture est attendue avec impatience car elle permettra la fermeture tant attendue de la décharge de Dar es Salaam.
Après de Tanguy Billon. Lourd bilan en Haïti après une attaque de gangs armés dans la nuit de lundi à mardi. Ça s'est passé à Kenskoff, une commune dans les hauteurs de Port-au-Prince. Près de 40 personnes ont été tuées d'après un bilan du maire qui affirme que d'autres personnes sont portées disparues. Des recherches sont en cours. Il explique que les assaillants ont fait irruption dans un camp de réfugiés dans une église. Le gouvernement annonce l'envoi sur place de renforts et puis je rappelle qu'une force de répression des gangs soutenue par l'ONU est en préparation pour soutenir justement les autorités locales face à cette violence qui gangrène Haïti. RFI, il est 6h08 à Paris, même heure à Pomas dans l'Aude, dans le sud du pays. La commune a été frappée par une tornade hier en fin d'après-midi. 41 habitants blessés, 300 maisons endommagées. Le phénomène a été violent. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont assez impressionnantes. Écoutez cette habitante encore sous le choc.
Le village est totalement dévasté. Beaucoup de gens ont tout perdu. La situation est vraiment chaotique. Je pense que sur les images, on voit des choses, mais on ne se rend pas compte. Tout est détruit. On n'a plus d'école, on n'a plus rien.
Un des propos recueillis par nos confrères de BFM TV. Au Venezuela, deux mois après le double séisme qui a ravagé le pays, le bilan s'est alourdi. Le gouvernement par intérim parle désormais de plus de 6500 morts. Parmi eux, une centaine de migrants qui venaient de rentrer dans le pays après avoir été expulsés des États-Unis. Ils se trouvaient dans un bâtiment des services de renseignement lorsque la terre a tremblé. Leurs proches ont manifesté leur colère hier à Caracas. La malnutrition et la dénutrition des enfants en Amérique latine à l'ordre du jour d'un sommet mondial qui s'ouvre ce mardi au Honduras. Ça va durer 3 jours. Les participants, 19 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, mais aussi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vont réfléchir ensemble pour proposer aux enfants une alimentation plus nutritive dans les cantines scolaires. Et c'est un vrai problème, notamment chez l'hôte de ce sommet, puisque selon l'UNICEF, près d'un enfant hondurien sur 5 souffre de dénutrition chronique. Reportage de Marie Griffon.
Dans cette école, les 30 enfants de 5 à 6 ans se rendent à la cantine pour déjeuner. Leslie Avares est la cuisinière.
Le déjeuner, ce sont des spaghettis et la boisson fraîche est à l'ananas.
Repas complet pour ces enfants qui vivent dans l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale, Tegucigalpa, où le salaire des familles atteint à peine 6 dollars par jour. Teresa Rosales, la directrice de l'école.
Nous avons accueilli des enfants dénutris. Nous savons que les conditions de vie de chaque famille ne permettent pas de les nourrir.
Ici, un repas par jour, mais de nombreux établissements ne peuvent pas faire la même chose.
La difficulté dans de nombreux établissements scolaires, c'est qu'ils ne disposent pas, comme ici, de cuisine pour préparer les repas. Lorsqu'ils reçoivent les aliments par le gouvernement hondurien et par le Programme Alimentaire Mondial, la FAO, tout leur est donné sous forme de produits secs, non cuisinés.
Autre enjeu abordé par le sommet, l'augmentation du diabète et de l'obésité des enfants, Pedro Ramos est médecin endocrinologue.
Il y a beaucoup de consommation de boissons sucrées, de soda, de chips, de sucreries, de desserts. Les gens disent, bon, je n'ai pas d'argent. Pourtant, à midi, ils achètent un soda. C'est le manque d'éducation alimentaire et d'orientation sur la nutrition qui provoque ces mauvaises habitudes.
En Amérique latine, 9% des enfants de moins de 5 ans sont en surpoids, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis les années 2000. Marie Griffon, Tegucigalpa, RFI.
En France, après l'article du journal Le Canard enchaîné au début du mois, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, est désormais visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Avant de devenir une figure de la France insoumise, il est accusé d'avoir cumulé deux fonctions à temps plein, l'une à l'hôtel de ville, l'autre à la RATP. Le parquet veut vérifier ces informations. Le principal intéressé, lui, se dit serein. Et les insoumis font bloc derrière lui, Victorien Viaume.
Ça dégonflera comme à chaque fois, explique un député insoumis qui voit là une nouvelle démonstration de la cabale politique orchestrée contre la France insoumise. Depuis la publication de l'article du Canard enchaîné, les insoumis sont sur cette même ligne. Bali Bagayoko n'a rien à se reprocher et c'est l'équipe perdante de la mairie de Saint-Denis qui essaie, je cite, de créer des histoires. Cette nouvelle affaire est en tout cas l'occasion de ressortir une certaine rengaine anti-système. Jean-Luc Mélenchon dénonce ainsi la caste et les suprémacistes médiatiques. Le député Aurélien Taché, lui, met en cause directement l'indépendance du parquet national financier qui prend cette décision alors que la présidentielle approche. Depuis le début, Bali Bagayoko dénonce des accusations absurdes. Un élu insoumis affirme, lui, ne craindre aucune conséquence pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon en dynamique dans les sondages.
Victorien Viaume du service politique de RFI. Et puis, c'est le grand jour, enfin le deuxième grand jour pour Sophie Adnaud. L'astronaute française va une nouvelle fois s'aventurer en dehors de la Station Spatiale Internationale aujourd'hui, comme elle l'avait fait la semaine dernière. C'est d'ailleurs pour finir cette même mission qu'elle ressort. Ça commencera un petit peu après 12h30 en temps universel et ça devrait durer un petit peu plus de 6h30. Pour l'heure, il est 4h13 en temps universel.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on est en Pologne et de plus en plus de touristes y sont, eux aussi. C'est un peu la destination de vacances qui monte en Europe. On va tenter de comprendre pourquoi le pays attire autant désormais. Le chanteur de reggae français Pierre-Paul Jacques sera notre invité culture, lui qui en est à son 15e album déjà. Et puis on va voir que la maladie d'Alzheimer, ça n'affecte pas seulement la mémoire, ce sera dans notre conseil santé du jour. Mais d'abord, le portrait d'un revenant ce matin sur RFI. Ancienne figure de l'autorité palestinienne, membre du Fatah et exilé depuis 15 ans. Il vit désormais aux Émirats Arabes Unis. Mohamed Darlan s'affiche à nouveau sur la scène politique palestinienne. Et certains y voient très clairement une possible ambition personnelle. C'est un dossier signé Rami El-Merari à Gaza et Frédéric Misselin à Jérusalem.
Pour appuyer la réapparition de Mohamed Darlan, sa biographie vient d'être publiée dans la Banque de Gaza. Elle a été tirée à 2000 exemplaires. L'éditeur, Samir Mansour, convient que le livre sort à point nommé.
Ce livre est très élogieux pour Mohamed Darlan et sa publication est très opportune. Personne d'autre que Mohamed Darlan ne peut diriger les affaires car c'est le seul fils de Gaza qui comprenne la situation aujourd'hui, le seul qui se soucie du peuple.
Coup de pub, en tout cas le livre n'est pas vendu mais distribué gratuitement à Gaza où la popularité de Mohamed Darlan est réelle. La biographie est signée Ahmed Youssef, un ancien cadre du Hamas qui dit s'être aujourd'hui éloigné du mouvement islamiste. Pourtant, Darlan a été au début des années 2000 un farouche opposant au mouvement armé. En 2007, le Hamas a déjà remporté les élections dans l'enclave et les violences interpalestiniennes font rage.
Down. I nearly lost my mind. took a car to town together. And as the week set in, we glued like newly kin. You were an honest pal, and I wasn't always right somehow.
Auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe Actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9, à Évreux, 102.4.
Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
battant se vautre et se plombe les dents. C'est l'ère du numérique, même le talent se jauge au nombre de ventes. On se trompe de sens, pour cause j'entends les grondements. Les panneaux sont géants, mais malheureusement tout le monde tombe dedans. Merde, c'est pourtant pas ce qu'on avait prédit. Trop de pédis, trop peu d'estime, peu de répit pour le mépris. On se perd, et puis le temps défile, mais on prend le temps de l'écrire, de le dire. Et c'est pour ça qu'on rappe, accélérant le débit. Chacun donne du crédit pour exister. Trop de frustration, dur de rester soi-même, donc par des bifs et par procuration. Entre les messes basses et les cris, beaucoup d'ondulations. Y'a des hauts, des bas, j'décris la vie en toute modulation. Dans nos voix, nos pulsations, tu vois bien que l'on blague pas. J'ai des tas de pages que je gratte seul en silence, pousse le volume à fond. Chacun ses occupations, mais tous pour commune passion. Le cash, la mise, le taf, la zik et la compilation.
Cette merde est cancérogène. Les frères sont dans le kérosène. Cette merde est dans les chaussettes. L'enfer est dans les fossettes. T'es dans des pensées obscènes. T'es pas étranger au prêtre. Tu pourrais nous déporter au fret. C'est emmerdant ce phénomène de fainéants et des grosses chiennes. Des militants insignifiants se dirigeant dans revolver. Les vues c'est vivifiant dans les zones érogènes et les ovaires. C'est désormais un titre de noblesse chez les enfants et les pauvres mecs. C'est Caroni et Grum. Ça gratte aussi les feuilles. À l'agonie les chèmes. Évasion fiscale. Patagonie et skunk. Arrache aussi les teufs. Ça ramollit les œufs. La basse, la face, la classe, la majorité bluffe.